Chers auditeurs, l'acte de gouvernement le plus important pour un évêque est certainement la publication de statuts synodaux, c'est-à-dire de lois et de décrets qui vont orienter et alimenter la vie chrétienne des fidèles. Ces textes donnent la direction à suivre pour l'avenir. Souvent, ils indiquent également pour le présent la situation de l'Église diocésaine, la réalité qu'elle vit, les besoins qui s'y manifestent. Mgr Dols va donc publier ses statuts synodaux en 1666. Nous nous arrêterons sur les deux points qui semblent préoccuper le plus l'évêque de Bayonne, la vie des prêtres diocésains et le sacrement de mariage. Les précédents statuts dataient de 1533. Ils avaient été publiés, vous vous en souvenez peut-être, par Mgr Poncher. Au plan adopté dans ceux de 1666 par Mgr Dols, on constate que les préoccupations pastorales d'un évêque de Bayonne ont changé en 130 ans. Mgr Poncher avait mis en tête de ses statuts les sacrements. Dans ceux de Mgr Dols, c'est la vie et le comportement des prêtres qui occupent cette première place. Le plus important pour les réformateurs catholiques du temps après le Concile de Trente, et Mgr Dols est à compter parmi ceux-là, c'était d'obtenir des évêques et des prêtres qu'ils mènent une vie conforme à leur état et à leur mission. Et dans ce but, rien ne paraît banal ou secondaire à l'évêque de Bayonne. Il y a bien sûr la vie intellectuelle des prêtres, et Mgr Dols leur indique quelques livres qui doivent figurer dans leur bibliothèque. Il y a surtout leur vie de foi et de prière, et Mgr Dols leur signale l'importance de l'oraison mentale mise en lumière par les grands spirituels de l'époque. Ses préférences vont à saint François de Sales, dont il semble avoir été un fervent disciple. Mais il y a également tout le reste dans la vie du prêtre, même l'aspect extérieur, par exemple la coupe de cheveux. Et il proteste contre ceux qui se donnent bonne conscience en disant que le Seigneur scrute le cœur et non la tenue vestimentaire. C'est que, dit-il, les ecclésiastiques, par l'ordre et leur grade, l'emportent sur les laïcs. Et pour ça, ils doivent également l'emporter par leur vie et le sérieux de leur conduite. Il les exhorte, per viscera misericordiae Dei nostri, comme il dit, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, il les exhorte à ne pas remplir leur mission avec tiédeur, à se souvenir que leur devoir de pasteur, c'est de connaître le troupeau, d'offrir pour lui le sacrifice, de faire paître par la prédication de la parole divine, par l'administration des sacrements et par les bons exemples, d'avoir un soin paternel des pauvres et des malheureux. Il semble que par ses conseils et ses exhortations, Mgr Dols veuille pallier le manque de moyens de formation des prêtres dont souffrait le diocèse de Bayonne, comme d'ailleurs l'Église de France. Mais celle-ci, l'Église de France, commençait à y apporter un remède efficace par l'institution des séminaires, qu'avait demandé d'ailleurs le Concile de Trente. Si Mgr Dols ne s'arrête pas à cette solution, difficile, c'est vrai, à réaliser en fait, il donne à ses prêtres un programme de vie en comptant sur leur bonne volonté pour l'assimiler et puis pour l'appliquer. Le courant spirituel profond qui animait alors l'Église de France et surtout le clergé ne lui était pas étranger. Et ce qui le prouve également, c'est le chapitre qu'il insère dans ses statuts sur la vocation sacerdotale, ce qui était tout à fait nouveau. Si celui qui envisage le sacerdoce ne peut y réfléchir dans le silence d'un séminaire et avec l'aide que celui-ci peut lui procurer, il pourra le faire lui-même grâce aux directives contenues dans ses statuts. De toute manière, seul peut réaliser l'idéal du prêtre décrit par Mgr Dols, celui qui garde la résidence. Et sur ce point, l'évêque laisse entendre qu'il y avait peut-être du relâchement dans le clergé basque et gascon. Un sujet qui retient l'attention de Mgr Dols, parce qu'il touche de près la vie du prêtre, c'est la messe. La réforme protestante l'avait violemment combattue et le Concile de Trente en avait rétabli la doctrine avec beaucoup de soin. À la suite, la piété catholique s'était très fortement attachée au culte de la présence réelle. Et Mgr Dols va travailler à la développer aux Pays-Bas, cette dévotion. Et en témoignent les retables dont nos églises se parent à cette époque. Dans ces statuts, Mgr Dols expose, à part de l'Eucharistie et avant tous les sacrements, tout ce qui concerne la célébration du Saint-Sacrifice de la messe. Beaucoup plus qu'à une étude théologique, il s'attache à une sorte de catéchèse détaillée des rites afin d'amener les prêtres à les respecter ad unguem, selon son expression. Car la célébration de la messe, ce mystère redoutable, comme il le qualifie encore avec les grands spirituels de son temps, exige du prêtre beaucoup de piété et la plus grande attention, même dans les attitudes extérieures. Soucieux de faire de la messe dominicale un temps fort de la vie et de la formation du chrétien fidèle, Mgr Dols rappelle le prône qu'il avait fait imprimer en basque en 1651, connu sous le titre de « Pregarioak », et que les curés devaient lire aux fidèles avant l'Évangile. Ce texte tenait lieu, en quelque sorte, de catéchèse et de prière universelle. De plus, l'occasion était donnée aux fidèles de réviser et de réciter les prières usuelles du chrétien. On peut, sur ce dernier point, faire remarquer que les formules de ces prières, Guriaita, Agur Maria, Shineshtendut, sont très proches de celles qu'on trouvait encore récemment dans les catéchismes basques de notre diocèse. Rappelons également que Mgr Dols fit imprimer un catéchisme en basque, probablement celui que l'abbé Pouvreau avait rédigé. Hélas, il n'en reste aucun exemplaire. Le sacrement sur lequel Mgr Dols va davantage s'étendre, c'est celui du mariage. Nous l'avons dit, ses prédécesseurs, Mgr Poncher en 1533 et plus récemment Mgr Fouquet, avaient abordé ce sujet et avaient fulminé des peines canoniques contre une coutume établie au Pays Basque qui consistait pour des jeunes couples à vivre ensemble avant d'avoir contracté un vrai mariage. Nous l'avons dit également, l'union matrimoniale au Pays Basque était étroitement liée au statut particulier de la maison, Etxea. Le mariage de l'héritier était effectif quand, avec l'accord des parents, était établie la co-seigneurie. Naushi Sahar est un Naushi Gasté. Cette co-seigneurie entraînait un changement important dans le statut de la maison, car l'héritier, marié, devenait alors propriétaire de la moitié du domaine. Ne venait qu'ensuite l'audition de la messe et la bénédiction nuptiale, indispensables pour que le mariage ne soit pas considéré comme clandestin par l'Église. L'autorisation des parents pouvait se faire attendre, et les jeunes gens n'ayant pas nécessairement vocation au célibat, il était admis qu'ils pouvaient cohabiter. C'était là une règle de la société basque, aussi ancienne que le droit coutumier. L'autorisation parentale était accordée en général dès qu'une naissance se produisait dans le couple. Mgr Dols aura donc la tâche d'acclimater dans son diocèse le décret du Concile de Trente qui ne reconnaissait comme valide pour un catholique que le lien établi par l'échange des consentements devant le curé de la paroisse et deux témoins. Il va donc dénoncer cette coutume qu'il appelle détestable que nous venons d'évoquer. Et pour l'information des fidèles, il va demander au curé de lire chaque année à la messe de trois dimanches consécutifs le chapitre 10 de la 24e session du Concile de Trente qui aborde ce sujet et de l'expliquer aux fidèles en basque. Le Concile avait également rappelé que le mariage devait être libre et spontané et qu'il n'avait pas besoin de l'autorisation des parents. Aussi fait-il défense à quiconque, parents ou tuteurs, d'empêcher leurs enfants ou pupilles de se marier, et cela sous peine d'anathème. Mais Mgr Dols n'ignorait pas les coutumes matrimoniales de son pays natal. Il fait donc une exception pour les fils et les filles de famille. Les curés se gardent donc de les marier avant 25 ans sans l'autorisation des parents. Et il semble que les Echekodiaun, les maîtres de maison, se soient rangés dans cette catégorie de privilégiés car la cohabitation ne va pas disparaître du Pays basque. Seul y mettra bon ordre la Révolution française en supprimant le fameux privilège d'un droit coutumier sans doute millénaire. Nous verrons la prochaine fois la fin de l'histoire de notre diocèse au XVIIe siècle.